Salut JC, c'est une bonne idée et ça permet de faire parler d'un métier que tout le monde pense connaître mais que personne ne connaît vraiment. Alors pourquoi pas passer une petite heure au micro avec toi et d'en parler. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le pire reste à venir matinal officiel de la radio HDR et des antennes de Principe Actif. Nous sommes ensemble avec vous jusqu'à 9h du matin pour discuter aujourd'hui agriculture ou plutôt discuter avec un agriculteur de manière plus générale. C'est Mathieu qui sera avec nous au micro ce matin. Bonjour Mathieu.
Bonjour JC.
On aura l'occasion d'y revenir, bien entendu, hein, on a une heure devant nous. On parlera également nuit de la lecture, également. Nadège passera nous faire un petit coucou dès qu'elle aura déposé sa fille à l'école. Bon, aujourd'hui c'est un peu particulier, on ne sait pas trop à quelle heure ça va être, hein, forcément le dépôt à l'école. Mais en tout cas, nous aurons l'occasion de discuter ensemble nuit de la lecture. Et puis, moi ça me met en joie en fait, le sol est blanc, cette ambiance un petit peu feutrée que nous avons. Il a neigé sur Évreux, il a neigé dans le sud du département de l'Eure. Je sais pas s'il a neigé à Rouen, on va vérifier ça un petit peu plus tard, mais il n'y a pas de raison qu'ils en soient punis. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, le thème de la journée, eh bien c'est bataille de boules de neige.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
Les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Radio Principe Actif.
Alors écoute, 99.1 HDR et 102.4 FM.
Radio Principe Actif.
Du bon son, de la bonne humeur et des bons plans.
Le pire reste à venir.
Voilà, et dans tout ça, avec mon excitation de la neige, j'oublie de vous parler du bon son, de la bonne humeur, du répondeur téléphonique que nous retrouverons durant cette émission. Mais bon, pour ceux qui nous suivent, ils ont l'habitude, ils ne seront pas perdus, bien entendu. Je vous le disais, nous sommes avec Mathieu, qui est agriculteur sur le plateau d'Unebourg. On va discuter ensemble agriculture, les enjeux, les joies, les bonheurs, les difficultés du métier. Mathieu, en quelques mots... qui es-tu, quoi tu ?
Bien, en quelques mots pour résumer la situation, donc Mathieu, agriculteur sur le secteur du plateau du Neubourg. J'ai 44 ans, deux enfants, une très jolie jeune femme, et je cultive essentiellement six productions différentes, du blé pour faire du pain, de l'orge pour la bière, du colza pour de l'huile, de la betterave pour le sucre, du lin pour faire des très belles vestes en lin ou des très beaux vêtements en lin.
Pour faire des sarouels.
Pour faire des sarouels. Et également de l'herbe à éléphant, donc plus communément appelé le miscanthus, pour faire du paillage horticole dans les massifs de fleurs.
Pour resituer un petit peu, là, tu as six productions sur tes terres agricoles. Pour resituer un petit peu, tu fais partie des grandes exploitations, des petites exploitations, des moyennes exploitations. Ça veut dire quoi, en fait, quand on fait six élevages, six productions?
Alors, six productions différentes, c'est pas forcément synonyme d'une grande exploitation ou d'une petite exploitation. Bon, j'estime que j'ai une exploitation de taille moyenne qui correspond à, en fait à faire vivre l'ensemble de la famille. Et en fait, on peut très bien avoir une petite exploitation avec autant de productions différentes. Parce qu'il faut bien être conscient qu'on fait pas tous les ans sur les mêmes parcelles, sur les mêmes champs, la même culture. On a ce qu'on appelle une rotation qui permet de faire tourner les cultures sur la même parcelle. Et l'objectif étant de pas faire de la monoculture et d'avoir une diversification, parce que on peut très bien avoir une bonne année sur une culture et une très mauvaise année sur une autre. Donc ça permet de répartir un peu les risques et les enjeux de production et les enjeux financiers.
On aura l'occasion d'y revenir justement, comment on tourne, pourquoi, comment, et puis comment ça s'organise, tout ça, bien entendu. On commence cette émission avec un peu de groove, parce que moi j'aime bien. Il y avait Gloria Gaynor, à une époque, qui avait fait le I'll Will Survive, moi qui me sort par les yeux, c'est juste plus possible, on l'a trop entendu, on l'a saigné dans tous les sens, ça a été synonyme de la Coupe du Monde de football en 98. Là, c'est un artiste, je suis en train de chercher son nom, forcément, c'est Mario José qui en a refait une interprétation et honnêtement, bah, je la préfère carrément celle-là.
Thinking I could never live without you by my side. I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong. I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed my stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, Lord. Walk out the door. Just turn around now. Cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with your bite? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I stay alive. I got all my life to live. I got all my love to give. I will survive. I will survive. Hey, hey. Kept trying to find the missing pieces of my broken heart. And I spent all so many nights feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. And you see me, somebody do. I'm not that chained up little person still in love with you. And so you felt like dropping in. Don't expect me to be free. Now I'm saving up my loving for someone who's loving me. Go now, go. Walk out the door. Just turn around now. Cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break it with your bite? I think I'd come by. You think I'd lay down and die? Oh no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll.
Salut la matinale.
Hi, principe actif.
Bonjour.
Foutez-moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
I like a mauvaise, mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Oui, bonjour, c'est Rudy du groupe Sparitos, service enfance, ville d'Evreux. J'aurais voulu être contacté par rapport à la manifestation 1, 2, 3 jouets qu'on fait à la halle des expositions au mois de février, afin de voir s'il y avait possibilité pour avoir une animation micro-trottoir ou autre. Ça a déjà été fait par le passé. Donc, mon numéro de téléphone, 06. Merci et bonne année à tous. Bye.
Eh ben salut Rudy, ouais ben pas de problème, on te rappelle, on va organiser ça. On vous rappelle, c'est 1, 2, 3 jouets qui sera au mois de février. On vous reprécisera la date, bien entendu, dès qu'on aura plus d'informations. En fait, dès qu'on aura rappelé Rudy, hein, tout simplement. Hein. Et puis pas d'inquiétude, le numéro de téléphone, c'est nous qui l'avons masqué, hein. On l'a pour de vrai. Hein. Parce qu'effectivement, c'était pas très clair de savoir, pour pouvoir le rappeler. 1, 2, 3 jouets, on vous tient au courant, bien entendu, Rudy, on te rappelle, ça va de soi. Je vous le disais, nous sommes avec Mathieu, agriculteur, sur le plateau d'une bourre. On passe l'heure ensemble. Il nous disait qu'il avait ses 6 cultures, 6 productions différentes. La rotation des sols, tout ça. On aura l'occasion d'y revenir. Mais moi, j'avais une première question de curiosité. On sait très bien ce que tu fais au mois de juillet. On voit les tracteurs passer. Votre occupation, d'ailleurs, c'est de nous ralentir sur les routes, en fait, hein, tout simplement, au mois de juillet.
Pas toujours, mais c'est pour la bonne cause.
Tout à fait. Et mais en hiver, qu'est-ce qui se passe dans les champs? Là, je vois pas grand-chose pousser, je vois pas grande activité évidente quand je passe. Que se passe-t-il en hiver pour un agriculteur?
Alors, en hiver, dans les champs, il se passe pas grand-chose. Il se passe quand même des choses. Hein. La nature est au ralenti. Elle arrête sa croissance gentiment et se prépare pour passer l'hiver. Par contre, nous, on prépare les saisons à venir, donc le printemps et l'été. C'est-à-dire que pour le moment, on fait la majeure partie de notre temps, c'est de la mécanique, réparation des machines et entretien des machines pour passer une saison de printemps et un été assez serein, sans trop de problèmes mécaniques. Il y a une autre partie qui est non négligeable, c'est toute l'opération déstockage, puisque toutes les productions de la ferme sont stockées sur site. Et on organise les livraisons, les transports de camions directement vers les silos portuaires ou vers directement les silos de meunier pour écraser le blé et en faire de la farine.
Est-ce que c'est le moment finalement où l'agriculteur devient chef d'entreprise dans la définition de la gestion de l'exploitation?
Disons que la partie chef d'entreprise, c'est une partie quotidienne. Puisque c'est toutes les décisions qu'on prend sont réfléchies et pesées, que ce soit pour l'achat des matières premières, pour la production ou pour la commercialisation des céréales, puisqu'on regarde quotidiennement les prix de vente des céréales pour essayer de s'arbitrer et de prendre des bonnes décisions. Donc ça, c'est un métier de chef d'entreprise à part entière. Pour avoir une rentabilité de l'entreprise.
Il y a un côté trader, quoi, surveiller le cours de ce qu'on produit pour savoir comment le vendre, enfin à quel moment le vendre.
Il y a un côté trader. Après, on est souvent bien aiguillé, bien informé, et c'est important pour prendre les bonnes décisions.
Nous le disions qu'on recevait Mathieu ce matin. Est-ce que c'est important, parce que voilà, on a déjà échangé ensemble. Tu n'es pas syndiqué, enfin tu n'es pas soit la Confédération, soit la FNSEA, c'est ça?
Il y en a deux. Non, je suis absolument pas syndiqué.
Ça veut dire quelque chose de pas être syndiqué quand on produit? Ça a des incidences sur la façon de gérer, sur la façon de fonctionner. Tu parlais tout à l'heure d'information. J'imagine que ce sont des canaux d'information aussi, les syndicats.
Exactement. C'est des canaux d'information, mais même quand on n'est pas syndiqué, on peut avoir accès à ces canaux d'information. Alors peut-être pas en primeur, mais peut-être en légère décalé, mais ça n'empêche pas de prendre, je pense, des décisions et d'avancer et faire évoluer l'agriculture vers une nouvelle agriculture.
Et alors justement, ça veut dire quelque chose de ne pas être syndiqué quand on est agriculteur ça se retrouve dans la production, ça veut dire quelque chose?
Absolument pas.
Non, voilà, c'est...
Absolument pas, c'est un choix de pas vouloir... faire partie d'un syndicat, que ce soit l'un ou l'autre. J'ai pas envie d'avoir une étiquette sur le dos, en fait.
Très bien. Tu es sur le plateau du Neubourg. Moi, je me posais la question, il y a plein d'exploitations agricoles sur le plateau du Neubourg. C'est renommé en Normandie, même, ce fameux plateau du Neubourg. Il y a des raisons particulières pour que ce plateau soit renommé, qu'il y ait autant de producteurs et céréaliers en particulier?
Alors, il faut savoir qu'historiquement, le plateau du Neubourg était une grosse région d'élevage. Maintenant, l'élevage se tend à diminuer petit à petit, et il en reste encore, mais pour laisser la place aux productions céréalières. et surtout industrielle avec la betterave et le lin textile. Il faut savoir que c'est une micro-région du département qui a l'avantage d'avoir une couche de limon très profonde et avoir beaucoup de réserves hydriques des sols. Et l'avantage, c'est quand on est dans des conditions très sèches, ça permet quand même d'avoir de bons rendements et une bonne conduite de culture. Voilà.
Quand tu parles de couche de limon, là, j'aimerais bien qu'on aille un peu plus loin, parce que pour toi, ça paraît sûrement évident, mais pour moi, pas forcément, quoi.
La couche de limon, c'est la couche de terre arable que l'on peut avoir sous nos pieds. Donc, c'est une terre fine, souple, qui se travaille super bien, comme dans du beurre. Par rapport à d'autres types de sols qui sont de l'argile à silex ou qui vont avoir des spécificités différentes et qui vont peut-être être un petit peu plus difficiles à travailler. Donc il faut savoir que par endroit, cette couche de limon sur le plateau du Neubourg, elle peut atteindre jusqu'à 9 mètres de profondeur.
Ce qui est assez important, 9 mètres de profondeur, on peut y aller, quoi.
On peut y aller.
Ouais, c'est ça.
Avant de croiser un caillou, on peut y aller.
Oui, parce que c'est ça aussi l'enjeu. On voit dans certains champs, dans certaines régions, des tas de cailloux énormes devant les champs, parce que ça remonte naturellement, le caillou. Et puis, pour pas abîmer les machines sûrement, et puis pour avoir une culture plus simple, ils sont enlevés, les cailloux.
Alors, on peut, par certains endroits ou certaines zones dans les parcelles, retirer ces cailloux. C'est un choix peut-être plus mécanique et qui répond à un besoin de certaines entreprises de TP qui ont besoin de cailloux des champs pour faire du remblai. Donc, on essaye de valoriser ce que l'on a sous nos pieds.
D'accord, donc tu produis 6 céréales et des cailloux.
Et des cailloux.
C'est ça l'idée. Sur justement ces céréales, tu disais, ça, tu fais tourner les cultures. J'imagine c'est comme ce que j'ai appris à l'école, en fonction de à quelle profondeur elles viennent chercher les oligo-éléments, les choses comme ça.
Nutritifs.
Les éléments nutritifs, voilà. C'est pour ça, c'est ça, les rotations des cultures.
Alors, la rotation des cultures, c'est différents éléments qui permettent en fait d'avoir un enchaînement de cultures, parce que les cultures n'ont pas forcément besoin des mêmes éléments en fonction du type de culture. Je prends par exemple le colza chez nous, qui a un élément qui a besoin d'un élément qui est le phosphore, qui est assez important. Donc, pour la culture de colza, on va favoriser des parcelles qui sont riches en phosphore ensuite on va enchaîner sur cette même parcelle une culture qui a moins besoin de phosphore et qui par la suite va régénérer du phosphore. Alors, notamment si on restitue les pailles au sol après la moisson des céréales, il y a une partie des pailles qui, en se dégradant, en se décomposant, va restituer du phosphore au sol. Donc, on a toujours besoin d'en rapporter pour entretenir le sol. Pour ne pas l'appauvrir, mais c'est la rotation des cultures permet cela. Et on a des exemples aussi de cultures quand on revient trop fréquemment sur la même parcelle, on va avoir des problématiques d'insectes, des problématiques de maladies et des problématiques de fertilité des sols.
En faisant tourner la culture, finalement, les insectes élisent moins domicile, en tout cas les insectes nuisibles aux cultures élisent moins domicile sur un endroit, parce qu'en fait, tout simplement, il y a plus ce qu'ils cherchent, quoi.
Ben, l'insecte, pour se développer, il a besoin d'un biotope. Mmh. Si on déplace le biotope, on va peut-être déplacer l'insecte, ou on va essayer de limiter sa prolifération. Voilà, l'objectif de la rotation.
Il y a beaucoup d'observations dans le travail d'agriculture, l'observation des sols, des cultures, de comment ça se passe. C'est aussi le métier d'agriculteur qui a changé. Aujourd'hui, on est face à des ingénieurs en agronomie, c'est ça?
Exactement.
C'est ton parcours peut-être à toi-même?
Oui, je suis ingénieur agronome de formation, non pas française, mais 100% belge. Ça, c'était un choix, de formation. Or, pourquoi la Belgique? C'est tout simplement pour aller voir ce qui se passe en dehors de la France.
C'est abordé autrement en Belgique?
Absolument. Enfin, je pense pas, j'ai pas de point de comparaison par rapport à la formation française, mais c'est une autre manière de vivre, tout simplement. Et c'est beaucoup plus enrichissant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus enrichissant que les formations que vous pouvez proposer en France. Après, pour répondre à ta question sur... comment dire, sur le...
Sur le côté ingénieur, sur le côté ingénieur, technique en fait, ultra technique, ouais. Scientifique même.
Le temps d'observation, on va dire dans les champs, c'est peut-être 80% de mon temps. Alors ça se mesure difficilement parce que c'est au quotidien. C'est beaucoup de visites de parcelles, beaucoup de marches à pied. Et ça entretient une petite forme physique quand même. Et puis ne pas hésiter à se mettre à quatre pattes et puis aller regarder vraiment ce qui se passe dans le sol et à la surface du sol.
Et alors du coup, j'imagine que tu n'as pas le même œil que moi quand tu vas dans creuser, farfouiller dans le sol et compagnie. Qu'est-ce que tu recherches en général? Comment ça se passe cette observation?
On a plutôt un œil affûté, puisqu'on a la connaissance de par la formation. L'œil affûté, c'est par exemple au moment des semis, c'est d'aller vérifier s'il n'y a pas trop de pucerons dans les céréales, pas trop de pucerons dans les betteraves non plus. Et on est content de voir des coccinelles. Donc quand on en voit, on fait tout pour les préserver.
Bah oui, c'est ça, c'est connu, la coccinelle mange énormément de pucerons, surtout la larve de coccinelle, je crois.
C'est ça, la larve et même la coccinelle adulte peut manger jusqu'à 10 fois son poids en pucerons. Donc quand elles sont là, on fait tout pour les préserver. Voilà, ça m'est arrivé pas plus tard qu'au printemps de l'année dernière, dans une parcelle de betteraves, de laisser... j'ai vu des pucerons, mais j'ai observé beaucoup de coccinelles. Donc j'ai laissé faire la nature naturellement j'estime pas avoir trop de dégâts des pucerons par rapport à ce que je peux trouver en extérieur. Et puis ça m'a fait des gains économiques, hein, le temps que j'ai pas passé à essayer de lutter contre les pucerons, ça m'a fait gagner du temps et de l'argent.
Je te propose une pause musicale de ton choix, parce qu'on s'est dit que tu passais pas mal de temps en tracteur. Tu aimes la musique aussi, enfin, ça fait partie des joies, de tes joies à toi, la musique.
C'est les joies de passer des heures et des heures dans le tracteur, assis sur le fauteuil. On a des bons autoradios et souvent connectés au téléphone. Donc on écoute un petit peu la radio en tant que telle, mais beaucoup de podcasts et de musique.
Canned, je me suis dit que c'était totalement à propos aujourd'hui. On va avoir l'impression de traverser les grands espaces américains sous la neige ce matin avec le fameux On the Road Again. On écoute ça.
Don't you cry no more, don't you cry no more. take a hint from my mama. Please, don't you cry no more. Don't you cry no more. Cause it's soon one morning down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else.
Canadhead, avec le titre On the Road Again, pour ceux qui roulent sous la neige, c'était clairement le titre approprié.
C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller.
Le plein reste à venir.
Le plein reste à venir.
De 8h à 9h.
De 8h à
9h. Sur HDR et Principe Actif.
Et nous sommes toujours ce matin avec Mathieu, qui est agriculteur sur le plateau du Neubourg. On a papoté de pas mal de choses, formation, agriculture, observation des sols. Et puis nous poursuivons, parce qu'en fait, j'ai eu l'occasion de voir un reportage sur la télévision sur lequel tu intervenais autour de la question des cultures, sur le maintien de qualité des nappes phréatiques, des cultures non récoltées. C'est un nom, hein. Je vois avec tes yeux et ton sourire que je suis à côté de la plaque quand je suis en train de définir un truc. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, des cultures non récoltées, en fait, qui permettent d'épargner les nappes phréatiques de certaines choses qui passeraient à travers la terre. Tu vas être plus précis que moi, hein.
Ah, ouais,
c'était assez brouillon, hein.
Oui, moi, l'idée est là.
C'est pour ça que c'est toi qui vas en parler, hein.
Mais faut quand même laisser les spécialistes en parler. c'est bien mieux et ça évite des compréhensions de travers et des raccourcis. Donc, l'idée, c'est pas forcément des cultures non récoltées.
D'accord.
Puisqu'on va récolter non pas la culture, mais récolter d'autres intérêts. Voilà. Donc, l'objectif de, pour en revenir sur le sujet de la rotation, c'est que dans nos rotations, on enchaîne parfois des cultures semées l'hiver et récoltées l'été, et d'autres qui vont être semées au printemps et récoltées l'été. Je pense notamment à la culture du lin ou de la betterave, qui vont être semées au mois de mars-avril. Et donc, pendant un laps de temps qui correspond de mois de août à mars, ben, il n'y a aucune culture sur le sol. Donc on s'est dit, plutôt que de laisser le sol nu, non couvert et non protégé face aux intempéries comme la neige, la pluie, et qui n'ont pas dégradé nos sols, mais permet, s'il n'était pas couvert, d'avoir du lessivage, donc c'est-à-dire des éléments minéraux qui migrent directement dans le sol et non accessibles par les plantes à venir, on va implanter ce qu'on appelle des couverts végétaux pour maintenir ces éléments nutritifs à la surface du sol et piéger ces éléments nutritifs par ce couvert. Alors ce couvert ne sera en effet pas récolté, puisqu'on va le restituer au sol, mais en fait on va restituer les éléments nutritifs au sol et éviter qu'ils soient migrés ou qu'ils partent avec l'eau directement dans les nappes phréatiques. Donc en soi, on intervient par nos actions, nos propres moyens qui sont face à la nature, je pense, un peu dérisoire, mais au moins on a le mérite de faire quelque chose. On agit sur la qualité de l'eau pour éviter justement le lessivage de ces éléments nutritifs vers les horizons très profonds du sol pour aller jusqu'aux nappes phréatiques. Alors c'est un chemin qui peut être très long, puisque entre la goutte d'eau qui tombe sur le sol et au moment où elle arrive dans la nappe phréatique, il peut se passer entre 15 et 30 ans. Donc, le travail qu'on réalise aujourd'hui, on le verra dans 15 ou 30 ans.
C'est aussi, parce que quand tu dis capter les éléments nutritifs dans la terre, les maintenir en terre plutôt qu'ils passent en nappe phréatique, ça a deux intérêts. Le premier, garder des éléments nutritifs pour les plantes, mais c'est aussi, nous, on n'en a pas besoin dans l'eau de ces éléments qui vont retomber, en fait. C'est même mieux qu'on les ait pas.
Alors,
je pense au pompage après pour les réseaux d'eau potable, par exemple.
Alors, je pense que les éléments nutritifs dont on parle, c'est trois éléments. L'azote, le phosphore et la potasse. Ça représente la vie. Donc, nous, on en a besoin. Alors, on n'en a pas besoin dans des quantités énormes, puisqu'on va le retrouver dans l'alimentation, mais dans l'eau également. Et on n'a pas besoin d'avoir des éléments en excès. Il suffit juste d'en avoir un petit peu dans l'eau. C'est pas dommageable pour la vie. Et au contraire, ça la développe. Mais nous, en tant qu'agriculteurs, on trouve ça dommage de les avoir à la surface du sol et de les voir partir tous les ans. Donc autant les préserver et que ça nous fasse un intérêt pour éviter d'en rapporter plus les années à venir.
Et puis cette couverture de verdure, finalement, une fois qu'elle est retournée dans le sol, donne aussi des éléments qui nourrissent le sol, j'imagine.
Mais par sa dégradation, au moment où on va la détruire, donc ça va être je pense que pendant la neige, on va pas la détruire tout de suite, on va attendre les phases de dégel ou sur le gel. Par la dégradation de cette matière végétale, les éléments nutritifs vont minéraliser et redonner un élément nutritif assimilable pour la culture qui va suivre.
Quand on parle d'agriculture, là, on entend ton travail, on entend comment t'abordes la question. Il y a une question aussi de législation, j'imagine. Enfin, c'est pas j'imagine, c'est l'agriculture est réglementée. Elle est réglementée peut-être au niveau préfectoral, quand on entend parfois les interdictions d'arroser ou les choses... Enfin voilà, il y a des réglementations préfectorales, des réglementations nationales. Et aussi des réglementations européennes, notamment. On entend souvent, sans bien savoir ce qu'il y a dedans, c'est la politique agricole commune, la fameuse PAC. Quand on est agriculteur, quelles sont les interactions, finalement, légales? Qu'est-ce qu'elles obligent? Qu'est-ce qu'elles permettent?
Alors, il faut savoir que l'agriculture est très, très réglementée. Je connais pas trop les autres professions. Même si j'ai travaillé beaucoup dans le commerce avant de m'installer en tant qu'agriculteur, mais l'agriculture est très réglementée et c'est assez bénéfique puisque ça permet de suivre ce que font les agriculteurs, parce qu'on produit quand même des denrées alimentaires, donc on fait pas n'importe quoi. Et la deuxième chose, c'est que on est sur des marchés mondiaux on est soumis à des prix mondiaux. Si on veut avoir une rentabilité de nos exploitations agricoles pour pouvoir en vivre, tout simplement, on cherche pas à faire de l'excès, mais juste en vivre, on a ce qu'on appelle une régularisation des marchés. Donc là est arrivée la PAC en 1992 pour essayer de réguler les prix de vente des céréales et de compenser quand les prix mondiaux sont très bas. De compenser un peu les pertes financières face aux contraintes réglementaires ou économiques à l'intérieur du pays. Donc on a une réglementation européenne qui est la PAC, une réglementation française qui est une adaptation de la PAC au niveau de la France, et parfois on peut avoir des réglementations départementales ou même en, à l'étage en dessous, au niveau d'un bassin d'alimentation de captage, donc pour préserver la ressource en eau.
Et donc ça, il faut composer avec tout ça. Sont des contraintes dures ou au contraire, ça fait partie des réglementations facilitantes? Ou les deux, hein, en fait. Hein, c'est...
Elles sont parfois facilitantes, mais beaucoup des contraintes, que ce soit administratives ou des contraintes techniques. Et parfois, on se heurte à certaines aberrations face à ces réglementations qui, pour nous, font pas forcément preuve de bon sens. Alors, nous, on parle plutôt de bon sens paysan, c'est-à-dire que on va dans les champs quand les champs nous permettent d'aller dans les champs pour éviter de casser le matériel et que surtout, par exemple, je pense l'implantation des couverts végétaux, la réglementation nous impose d'implanter ces couverts avant une certaine date, mais s'il pleut pas ou si les conditions sont des conditions de sécheresse, on va pouvoir implanter, mais le couvert il va jamais pousser. Donc l'intérêt pour l'agriculteur, il est quasiment nul. Donc on est mieux à attendre des pluies annoncées plutôt que de mettre une graine dans le sol et de se dire pendant un mois et demi, il va pas y avoir une goutte d'eau, donc le couvert il va jamais lever.
C'est ça. C'est des métiers qui sont soumis quand même à la réalité de la météo. On sait bien que la météo, en plus, dans ces temps, est assez variable. Quand on parle de réchauffement climatique, c'est aussi dérèglement climatique avant tout.
Alors moi, je parlerais plutôt de dérèglement climatique que de réchauffement climatique. Même si j'ai certains confrères qui misent à fond sur le réchauffement climatique en implantant de la vigne en Normandie, mais c'est un pari sur l'avenir, c'est audacieux, c'est bien, il faut tenter. Mais je parlerai plutôt de dérèglement climatique. Alors aujourd'hui, c'est pas parce qu'il neige que c'est un dérèglement. On est en hiver, moi je trouve ça tout à fait normal qu'il neige. Par contre, avoir une période de 5 jours à 10 jours de gel consécutif à moins 4, moins 5, pour moi ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu ça. Donc ça permet d'assainir et de toute façon on a besoin d'une période de froid pour que les cultures et les sols se régénèrent et que les cultures puissent fructifier.
Justement, alors tu le disais, 44 ans, t'es pas l'agriculteur qui a vu un siècle d'agriculture de lui passer entre les mains, mais ce 21e siècle, est-ce que de toute façon on ne fait pas de l'agriculture comme on en faisait il y a un siècle, hein, bien entendu, entre les moyens techniques, mais quelles sont un petit peu les particularités de l'agriculteur au 21e siècle, entre avancées technologiques, dérèglements climatiques, réglementations, demande aussi de consommation et compagnie, quelles sont un petit peu les réalités au 21e siècle? Quelles sont les choses particulières du 21e siècle dans l'agriculture?
Alors, le métier d'agriculteur, c'est la première faculté, c'est l'adaptation. On est dans un milieu naturel, soumis à des contraintes météo, des contraintes naturelles, qui sont différentes et propres à chaque exploitation. Et l'avenir, c'est l'adaptation. Donc, l'objet ou le challenge pour le 21e siècle, c'est de bien faire des choix pour s'adapter aux contraintes, que ce soit réglementaires, aux contraintes météo. Donc ça peut passer par l'implantation d'une nouvelle culture. Je parlais tout à l'heure de la vigne en Normandie. On peut peut-être écarter les yeux en disant qu'on va voir d'ici quelques années des bons Bordeaux qui vont glisser jusqu'en Normandie.
Des bons Neubourg. Je t'ouvre un petit Neubourg.
Ça peut être assez folklorique, mais pourquoi pas. Il faut essayer, et si on n'essaye pas, on ne le saura pas.
Il y a un peu de recherche sur, par exemple, ton exploitation à toi, des essais, des trucs peut-être sur des petits bouts de parcelles ou des morceaux d'exploitation, des expériences.
On fait toujours des expériences. Moi, je consacre toujours une partie de mon exploitation pour expérimenter, soit auprès des instituts techniques qui nous entourent, ou même personnellement pour améliorer certaines choses et se faciliter la vie. Alors il faut savoir que l'agriculture aussi du XXIe siècle, elle passe par toute la technologie. Donc aujourd'hui, moi, tous les tracteurs, ils sont guidés par GPS. C'est un confort de travail et c'est une optimisation aussi du travail, puisqu'on essaye de pas repasser deux fois au même endroit pour éviter le sur-travail du sol ou même quand on fertilise nos sols, on met la bonne dose au bon endroit.
Puis ça fait de plus jolies lignes dans les champs quand même.
Oui, ça fait très très linéaire, mais c'est pas. C'est parfois il y a des belles courbes aussi. Et c'est joli les belles courbes.
C'est j'imagine effectivement que toutes ces nouvelles technologies facilitent le travail, mais permet aussi d'aller un peu plus loin. Effectivement, comme tu disais, dans la recherche, il y a une ou deux expériences particulièrement réussies que tu as eu l'occasion de mener ou d'essais un peu parlants. Ou d'idées des fois qui peuvent vous paraître des idées à la con au démarrage et puis qui sont transformées en idées de génie.
Je pense à un exemple qui est la culture du miscanthus. J'avais eu, on va dire, l'opportunité d'en planter, parce que c'est une plante pérenne, sur une partie de l'exploitation. L'idée de base, c'était pour mettre dans une chaudière et réduire les consommations de charbon dans certaines industries. Donc c'était de produire en gros de la biomasse pour chauffer, sauf que une mauvaise étude de marché a montré que le bois était le déchet du bois était beaucoup plus intéressant que le produit le miscanthus. Et à l'époque, je travaillais beaucoup en contact avec des jardineries qui cherchaient des solutions alternatives aux chimiques pour l'entretien des plantations et l'entretien des jardins potagers. Donc de là est venu, pourquoi pas essayer cette culture-là ou ce résultat, cette production plutôt, pour faire un paillage qui a deux effets. Le premier, c'est d'éviter l'enherbement, et le deuxième, c'est d'éviter l'érosion des sols et l'évaporation de l'eau, donc de limiter les arrosages.
C'était une expérience qui a pas eu l'objet de la recherche, mais qui a trouvé
un autre débouché, une autre application.
Je propose un extrait musical et là c'est moi qui ai été chercher un morceau des Black Keys. Ils sortent un album au mois d'avril, c'est ça, qui s'appellera, c'est écrit tout petit et j'y arrive plus avec mes yeux, qui s'appellera Ohio Players. Le titre choisi c'est Beautiful People et ce sont les Black Keys.
Just a friend on the wind seeking shelter. Hear the crack in the sky and a light from on high.
Higher and higher when the wind blows. La, 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 la
Black Keys, extrait de l'album à sortir Ohio Players. C'est au mois d'avril que vous le retrouverez dans les bacs.
Le pire.
Le pire.
Reste à venir.
Reste à venir.
Bon, allez, debout là-dedans.
De 8h à 9h sur Principe Actif et HDR.
Allez, debout là-dedans, allez.
Et nous sommes toujours en direct dans le pire reste à venir avec Mathieu, comme je disais, agriculteur sur le plateau du Neubourg. Et c'est Nadège qui nous a rejoint, qui s'occupe de l'événementiel sur le réseau des médiathèques d'Evreux. Bonjour Nadège.
Bonjour JC.
Ça y est, la bataille de boule de neige est finie. Tu es arrivé jusqu'à nous.
J'ai réussi à arriver jusqu'à vous. Bon, après, j'ai pas un gros mérite, je fais pas non plus 15 bornes, mais...
Non, mais il y avait bataille de boule de neige ce matin.
Oui, c'est ça. Une grosse, grosse bataille.
D'accord, t'as gagné ?
Toujours.
Ben voilà. Nadège, on te recevait ce matin pour parler notamment des nuits de la lecture qui vont se dérouler ce week-end et plus particulièrement samedi sur la médiathèque Roland Plaisance à Évreux. En quelques mots, c'est quoi ces nuits de la lecture ? Est-ce qu'il faut forcément qu'il fasse nuit pour lire ?
Non, évidemment, je sais, c'est l'une des manifestations du ministère de la Culture. Hein. C'est des manifestations qui sont mises en place aussi pour comme on dit nous, amener des publics un peu différents à la lecture ou les gens qui, voilà, qui sont un peu détournés du livre aussi. Hein. Il y a plein d'axes pour la lecture. Et donc, l'idée, c'est de faire un événement un petit peu plus, un peu différent d'habitude. Voilà, on vient dans les médiathèques et puis, j'y vais parce que c'est dans toute la France et aussi ça peut se passer ailleurs que dans des médiathèques, hein, tous les événements autour du livre et donc on fait des choses autour du livre mais un petit peu différentes de ce qu'on y fait d'habitude.
C'est ça, c'est autour du livre principalement, ça veut dire c'est pas un concours de lecture, c'est pas des coussins alignés pour pouvoir chacun se poser avec son bouquin, c'est de l'événementiel et du spectacle vivant notamment.
Oui. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est organisé par le Centre National de Lecture, du coup, quand même, cet événement-là, relayé par le CNL. Et nous, effectivement, à la médiathèque Roland Plaisance, puisque ça se passera en centre-ville, ça dure 3 jours, hein, c'est du jeudi au dimanche, de manière générale. Nous, on aura, en plus des actions de nos médiateurs envers la petite enfance, on aura 2 spectacles le soir, une lecture dansée et un théâtre en chanson, on va dire, pour la deuxième partie.
C'est accessible à tous, c'est gratuit, c'est où faut la fameuse carte Gold Vibe de la médiathèque.
Non, toi tu l'as, j'ai c'est la carte Gold de la médiathèque, mais non, c'est gratuit et ouvert à tous évidemment, comme la plupart de nos actions. Hein.
Inscription ?
Non, pas d'inscription. C'est libre et gratuit dans la limite des places disponibles. Voilà. Après, j'ajoute que ça commence quand même à dans le milieu d'après-midi à 16h30 parce qu'on a plein d'actions avec les petits. Notamment, ils seront invités à venir en pyjama aussi pour l'une des actions qui se déroulera. Enfin, un côté nuit de la lecture.
Je peux venir aussi en pyjama ?
Écoutez, j'y sais. Non, mais tu fais comme tu veux, j'ai envie de te dire. Mais voilà, c'est... C'est une ambiance un petit peu différente de d'habitude. Voilà.
Donc, pour revenir, les 0-4 ans sont invités sur la bulle d'essence à partir de 16h30 ce samedi. Oui. Après, il y a à partir de 4 ans et à partir de 19h, c'est bien, je mets les deux, 4 ans, 19h, Mon corps d'ombre et de lumière.
Oui, la thématique, c'est le corps. Hein. Cette année, je ne l'ai pas dit. En fait, il y a une thématique à chaque événement du ministère de la Culture. Et donc, c'est le corps. D'où ce lien. Voilà. Je te laisse continuer.
La lecture dansée. Alors ça, la lecture dansée, je me suis dit, c'est pas pratique de lire quand on danse. Moi, j'ai beaucoup de mal à lire quand je danse.
Mais écoute,
c'est quoi cette lecture dansée ?
Il faut que tu viennes voir, comme ça, tu te rendras compte. Bah, en fait, on a un duo de danseurs, un danseur et une danseuse, qui interprète une chorégraphie sur un texte de John Cage et une musique de Bach. Donc, il y a une alternance en fait dans ce lecture, hein. Ils ont un pupitre, un micro et ils ne lisent pas pendant qu'ils dansent, donc tu verras c'est beaucoup plus facile avec ce voilà.
D'accord, ouais, c'est plus facile quand on est plusieurs, ouais. Effectivement, et puis à partir de 20h30 c'est un spectacle, c'est théâtre en lecture et en chanson.
Oui, tout à fait.
Avec des gens du coin.
Avec des gens du coin, alors la compagnie de juste avant, elle est aussi résidente à Évreux, hein, la compagnie Little House. Ouais, pour la danse. Et puis La Fugue de mon grand-père, c'est un spectacle par la troupe du Serpent qui rigole, qui est mené par Rémi Rémi Brument-Varly, qui est un auteur du coin, qui fait plein de choses aussi, du théâtre notamment. Et là, il y aura aussi de la chanson, il y aura une comédienne et un pianiste avec lui, il y aura une mise en lumière de Frédéric Grimaud, qui est aussi quelqu'un qu'on connaît bien dans le coin, une mise en espace et en lumière. Voilà, donc ça va être deux ambiances un petit peu différentes et ça va s'enchaîner la lecture au rez-de-chaussée, et puis, la danse, pardon, au rez-de-chaussée, enfin oui, il y a lecture de toute façon, et le théâtre en chanson ensuite au moins un.
Truc de fou, c'est qu'en plus la médiathèque, vous avez l'émission sur l'antenne de Principe Actif.
Mais oui, c'est dingue.
Bah, un truc de dingue. Cette fameuse émission qui s'appelle Biblio plus plus.
Oui.
Parce qu'un seul plus, ça suffit pas avec la médiathèque d'Evreux. Il faut deux plus.
C'est toujours plus avec nous.
Voilà, c'est plus plus. On en saura beaucoup beaucoup plus sur les nuits de la lecture demain midi et demi, c'est ça?
Demain midi et demi. Et ce qui sera exceptionnel, ce sera la première depuis qu'on a commencé l'émission avec Principe Actif, c'est que elle aura lieu en direct et en live. C'est toujours en live. Mais en direct, mais depuis le hall de la médiathèque Roland Plaisance, donc en public, puisque nous sommes maintenant ouverts en continu de 10h à 18h depuis janvier, tous les jours. Donc les gens peuvent venir le midi avec leur sandwich d'ailleurs, on a mis un espace aussi pour se restaurer, et venir assister à l'émission en live et en direct à la médiathèque.
Dans les médiathèques à Évreux, on peut manger, on peut boire, on peut...
Alors pas à tous pas les étages, il y a des endroits où il faut avoir les mains propres.
On peut faire du bruit, on peut... C'est
ça
fini.
Devient dingue.
Ça devient dingue, hein. C'est un hall de gare.
Alors on a toujours une salle de lecture pour ceux qui souhaitent travailler au calme.
Non, bien entendu. Mais en tout cas, c'est un lieu de vie. C'est, on le répète régulièrement, notamment à travers l'émission Biblio Plus Plus, c'est un lieu de vie. C'est important aussi de se dire que la médiathèque, c'est aussi un lieu de vie. Voilà.
Oui, exactement.
On invite les auditeurs à nous rejoindre demain midi, en fait. Hein, s'ils veulent nous rejoindre, médiathèque Roland Plaisance, venez nous rejoindre. C'est toujours un plaisir de vous croiser en vrai.
Et puis sinon, sur le 102.4.
Et exactement, le 95.9 également, dans le sud du département.
Oui, je les oublie tout le temps, les
désolé pauvres. Pour les Rouennais. Vous n'avez qu'à venir, vous. Hein. En tout cas, voilà le menu.
Merci.
On a oublié des choses sur les nuits de la lecture?
Non, je pense qu'on a dit l'essentiel. Je crois qu'il y en aura un petit peu pour tout le monde, pour tous les âges, pour tous les goûts. On a concentré ça, effectivement, demain sur l'après-midi et la soirée du samedi. Mais voilà, on vous attend sans problème.
Nous sommes toujours avec Mathieu, je disais, agriculteur sur le plateau du Neubourg. Il y avait une dernière question et celle-là, elle est même pas de moi. Ma fille m'a dit, pourquoi ils retournent les panneaux, les agriculteurs? Alors, c'est pas toi forcément, hein, mais vous avez vu, il y a depuis quelques mois, les panneaux d'entrée de ville sont régulièrement retournés. On lit à l'envers nos entrées de ville.
Ma fille m'a
ville.
Posé aussi la question.
Ta fille t'a posé la question, bah, tu vois, c'est une question de nos enfants. Mathieu, question de nos enfants, et je pense que t'es mieux informé que nos enfants et que nous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des panneaux?
Et la grande question, est-ce que vous avez la réponse à cette question?
Mon mari lui a dit c'est des gens qui sont pas contents.
Ah oui,
c'est pour montrer un mécontentement.
En effet, c'est pour montrer un mécontentement. C'est tout simplement pourquoi les mettre à l'envers, ces panneaux, les panneaux d'entrée de ville. Donc c'est toujours fait en accord avec les maires et les responsables, les élus locaux. Ça faut bien le préciser. C'est pas un acte de vandalisme. C'est tout simplement pour revendiquer qu'on marche sur la tête. Alors quand on marche sur la tête, on voit tout à l'envers. Alors pourquoi pas retourner les panneaux, comme ça on les verra à l'endroit.
C'est issu du monde agricole, cette contestation, démarrage.
C'est une contestation qui vient du monde agricole, essentiellement.
C'est pour ça qu'on pose la question d'ailleurs. Hein.
Essentiellement par les syndicats FNSEA. Et l'objectif, c'est de montrer qu'on n'est pas en accord avec la réglementation, qu'elle soit européenne ou française ou départementale ou cantonale.
On l'a évoqué, on l'a touché du bout du doigt tout à l'heure quand on parlait de réglementation ensemble dans le fonctionnement. En tout cas, voilà, ça fait partie des questions. Et puis l'intérêt de cette contestation à travers les panneaux à l'envers, c'est qu'elle pose des questions. Et on l'a bien vu, la fille de Nadège, la mienne, ont posé la question. Et bien souvent, on n'a pas la réponse complète, nous, n'étant pas du milieu.
Ça.
Merci Mathieu de nous avoir apporté cette réponse assez complète. À détailler, bien entendu, sur les réglementations qui posent problème ou autre, mais ça, c'est si on a envie d'aller un petit peu plus loin.
C'est ça. Et puis l'objectif étant que ça interpelle quand même le grand public, et je trouve cette action peut-être plus intelligente que d'aller déverser une benne de fumier devant la préfecture.
Ouais. Tout à fait. Ouais, c'est... Il y a plusieurs actions comme ça, celle des panneaux. Puis elle dure dans le temps, en fait, celle des panneaux. On est obligé de la voir. Hein.
Oui, elle dure dans le temps. Après, il y a certaines collectivités qui, au bout d'une semaine, remettent le panneau à l'endroit, mais on refait les demandes auprès des élus et on les remet à l'envers.
Sur, là, il nous reste 3 minutes de conclusion de ces éléments-là. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait essentielles, qu'on aurait oubliées sur ce métier-là ? Alors, on a oublié plein de choses, hein, bien entendu, mais de trucs essentiels, centrales, qu'on aurait oubliés sur ce qu'est le métier d'agriculteur, sur ce qu'est de aujourd'hui produire notamment des céréales.
Alors, on ne produit pas que des céréales, ça représente que 50% de ma production, production de céréales.
Oui, il y a des travaux. Oui, c'est vrai que moi, je mets tout dans le même panier. Hein.
C'est ça.
Tu ne vas pas m'embaucher pour les saisons, ça c'est sûr. Hein.
Mais il faut bien un peu de diversité et il faut rappeler que le monde agricole, il est utile. Il permet de remplir nos assiettes, nos caddies, nos rayons de supermarché, aussi les petits producteurs locaux qui ont tout à fait le mérite d'exister. Et ça permet d'être acteur et présent sur le territoire. Il faut savoir que sans agriculture, on mangerait pas. Ou on mangerait différemment. Et ça entretient aussi notre paysage. Ça permet de cultiver nos sols, mais surtout d'avoir un environnement tel qu'on le connaît et qu'on souhaite le préserver.
L'agriculteur, c'est quand on parle, parce que régulièrement, c'est drôle, il y a une double entrée. Aujourd'hui, on est sur des urgences écologiques, bien entendu. Et parfois, l'agriculteur présenté comme l'ennemi, parfois, il a été présenté comme ça, et au contraire, comme l'allié de cette agriculture. Dans les mots, dans ce que tu nous racontes ce matin, je vois plutôt comme l'agriculteur aux premières loges des acteurs, finalement, de l'écosystème et de l'écologie, non ?
Mais je dirais c'est le premier acteur. C'est lui qui a les moyens, et même avec le peu de moyens qu'il peut avoir, c'est lui qui est acteur principal sur l'écologie. Donc autant en faire une force pour l'agriculture, plutôt que d'être montré du doigt. Et je trouve ça beaucoup plus valorisant pour l'agriculteur d'être acteur de ces grands défis pour demain, plutôt que de les subir.
Pour terminer, on a vu ton métier était très divers. Là, c'est aujourd'hui tu vas refaire de la mécanique. Après, c'est ça ?
Ouais, on va faire un peu de bois là, histoire d'avoir du bois à mettre dans la cheminée.
Quelles sont les joies principales de ton métier ? Toi, ce qui t'anime, toi, quelles sont les quelques joies principales de ton métier ?
La joie, c'est quand il neige dehors. Au moins, on n'a pas de route à faire. On est directement sur place et on s'occupe tous les jours largement. Je pense que les journées sont beaucoup trop courtes. Elles feraient plus de 24 heures. On arriverait à s'occuper tout le temps.
Alors, ce qui est drôle, tu dis une des joies, c'est de bosser sur place les jours où il neige. Le jour où il neige, en fait, moi, je te fais venir sur Évreux, du coup.
Exactement.
Je t'ai mangé ta joie, quoi.
C'est le challenge. Mais il faut aussi savoir se challenger tous les jours.
C'est important d'échanger sur ton métier ou pas ? Parce que quand on a discuté ensemble, alors on se connaît en dehors, hein, on peut tout dire, mais t'as pas tergiversé, c'est ouais, ok, vas-y, c'est cool, on va parler du métier, quoi. C'est important d'en parler ?
C'est très important d'en parler parce que je pense que beaucoup de gens se font une idée de l'agriculture et de l'agriculteur qui est pas forcément l'idée, c'est souvent des idées préconçues. Parce qu'ils ont perdu le contact avec le monde agricole. Il faut savoir qu'une génération avant, on va dire, tout le monde était issu du monde agricole. Maintenant, on a beaucoup de générations qui connaissent pas le monde agricole, à part l'avoir vu en images dans les livres, et merci à Mediatek, et qui n'ont pas connaissance du propre du métier. Donc, je pense que c'est important d'en parler. Et de faire parler les agriculteurs, parce que c'est eux qui connaissent le mieux le métier.
Merci beaucoup Mathieu d'avoir échangé avec nous ce matin, nous en savons beaucoup plus maintenant.
Merci à toi JC.
Hors micro, on s'était dit, voilà qu'on passe faire un reportage en moisson ou un truc comme ça quand même, ça peut être sympa ça.
Mais pourquoi pas, la porte de la moissonneuse est ouverte.
Très bien.
Enfin, pour t'ouvrir la porte, hein, mais sinon on va la refermer pour la poussière.
Ça m'arrange bien, je te cache pas. Il y a une ceinture ou pas ?
Vu la vitesse où on roule, il n'y a pas forcément besoin de ceinture. Mais,
d'accord.
Mais si on pourra installer une ceinture.
On en bricolera une, c'est ça. C'est gentil. Merci en tout cas, Mathieu, d'être venu parler de ton métier et d'agriculture à nos micros. Merci Nadège d'être passé nous parler des nuits de la lecture que nous retrouvons ce week-end et notamment samedi à la médiathèque Roland Plaisance.
Oui, merci pour votre invitation.
Eh bien, restez à l'écoute de nos programmes parce qu'ils sont cools.